evening. This is your fucking captain speaking. Please undo your seatbelt for takeoff. You are now free to smoke about the cabin.
Cabin.
Now we're in the cabin, in the middle of
Je rentre en cabine, en kimono. Super, j'y vais, tranquille, mollo.
Jamais la cabine explose, la même chose d'une vue d'assiette.
Ça, ça sent classique.
And this is what the cabin done.
Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans La Cabine, l'émission d'analyse et catalyse musicale. Cette année, nous allons composer une poignée de chansons instrumentales qui vont ensuite être relâchées dans la nature pour voir comment les chanteurs et autres musiciens volontaires vont les assaisonner. Tout ça va être agrémenté de diverses chroniques, de tests de matos, des interviews d'invités, peut-être des jeux éventuellement, mais surtout un maximum de fun et de chill. Pour ce premier numéro, je suis entouré par les gars les plus sereins de la galaxie. On a Nils à la technique qui ne manquera sûrement pas une occasion d'intervenir pour corriger nos éventuelles erreurs.
Je confirme.
Nils, bienvenue à toi.
Bonsoir.
On a Arthur, le mercenaire de la guitare qui lâche des riffs commandés sur place ou à emporter. Salut Arthur, bienvenue.
Bonsoir.
Et enfin, l'invité du jour, Tom, le placide explorateur, DJ producteur qui tape des grands écarts entre 80 et 160 BPM sans jamais se départir de son charmant sourire. Salut Tom, c'est un plaisir de t'accueillir à nouveau dans ces locaux.
Salut, plaisir partagé.
Pour donner un petit peu de contexte, c'est en compagnie de Tom et avec ses instruments dans son studio que j'ai eu la chance de co-composer la première chanson instrumentale de cette saison que nous allons bien entendu vous faire écouter assez tôt dans cette émission. Et en plus de ton sourire, Tom, tu as ramené dans notre cabine un de tes instruments, le synthétiseur Korg Minilogue XD, d'ailleurs qui s'appelle le tien Kylie Minilogue, je crois.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Il faut
quand même bien le préciser, c'est pas le Korg.
Il va bientôt nous régaler de ses oscillations sous peu. Après ce test matos, on écoutera la chanson qui en a découlé, puis je vais vous parler un petit peu du jeu vidéo Wipeout, plus précisément des circonstances de sa création et de sa bande originale de bâtard. Ensuite, nous prendrons un peu de temps pour en apprendre un peu plus sur notre invité, et dans le dernier tiers de l'émission, nous pourrons passer dans le vif du sujet, la composition de la chanson du jour. Et enfin, on va repasser la chanson du jour, mais avec cette fois-ci la guitare d'Arthur en accompagnement. Les présentations sont faites, et on va pouvoir passer à la suite. Super jingle agrémenté par Arthur le mercenaire. Alors on va vous parler du Minilogue XD. C'est un synthétiseur de la marque Korg. C'est l'enfant légitime du Minilogue et du Prologue qu'on retrouve très régulièrement en studio et sur la scène d'artistes en tout genre. Je pourrais vous noyer sous des termes techniques qu'on n'aurait pas le temps d'expliquer comme filtre bipolaire avec circuit de commande, joystick de pitch bend ou encore micro-tuning, mais on va plutôt se pencher sur la base de ce qu'est un synthétiseur de son. Alors un son, c'est de l'air qui vibre. On peut faire vibrer de l'air avec ses cordes vocales, comme je suis en train de faire par exemple, ou avec la membrane d'un haut-parleur. Et pour faire vibrer la membrane d'un haut-parleur qui fait vibrer de l'air, il faut bien lui envoyer une certaine information pour lui dire d'aller d'avant en arrière, en avant en arrière, selon une certaine vitesse. Et ça, ben, c'est rien d'autre qu'une oscillation. C'est donc des oscillateurs qui sont à la base de la synthèse sonore, et c'est la vitesse de l'oscillation qui va déterminer la note. Donc par exemple, si on a un seul oscillateur sur le Korg, ça donnerait ça. Ok, et ça c'est quoi comme forme d'onde?
Ça c'est une forme d'onde saut, donc une dent de scie.
Ok, parce que les oscillateurs peuvent faire des l'onde classique, ça va être la sinusoïde de base, t'en as une?
Sur cet oscillateur là, non.
Ok, bon c'est pas grave.
Mais j'ai une onde triangle.
Ah ouais.
Ou une onde carrée.
Voilà, en gros, la forme d'onde, c'est ce qui va dire à la membrane d'aller là où elle va, à une certaine vitesse. Et pour déterminer la hauteur de la note, le pitch, mais il suffit que l'oscillation soit plus ou moins rapide. C'est-à-dire que plus l'oscillation est rapide, plus la note va être aiguë.
Je vous ai quand même trouvé une petite onde sinusoïdale.
Ah.
C'est vachement plus doux.
Ouais, c'est beaucoup plus chaud.
Et une fois que l'oscillation est créée, on peut la filtrer. Donc là, il y a des filtres pour laisser, par exemple, que les basses. Est-ce que tu as un exemple de ça?
Là, il est ouvert, ouais. Le filtre, puis on va le fermer.
Voilà.
Ouvrir, fermer.
Ouvert,
fermé.
Donc ça, c'est super. Ça permet vraiment de filtrer, quoi. C'est un filtre. On peut ajouter d'autres effets. Par exemple, il y a de la réverb. Ah yes.
Ouf. On la cherche, elle arrive.
Et elle est là, elle est là. T'as aussi du delay, le delay plus classique aussi, hein, qui est pas mal non plus. Oh, le delay ping-pong droite-gauche en plus là.
T'étais pas prêt, hein.
Non, j'étais pas prêt du tout, c'est incroyable.
Écho.
Et surtout, on peut moduler cette oscillation avec d'autres oscillations. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que le Korg possède deux oscillateurs analogiques qui peuvent se moduler l'un l'autre. T'as un exemple de ça ?
On va rajouter un deuxième oscillateur, du coup.
Oh, la sirène de stade.
Grave.
C'est la Coupe du Monde de rugby qui m'a embauché.
Waouh.
Donc là, on a deux oscillateurs en même temps. On va pouvoir shaper au souhait, avec des formes d'ondes pour chaque oscillateur et des hauteurs d'octave aussi pour chaque oscillateur, et qui vont se moduler entre eux.
Trop bien. Et je crois que sur le Minilog XD, ce qu'il n'y a pas sur l'autre Minilog, il me semble, c'est qu'il y a aussi un genre d'oscillateur numérique qui va pouvoir moduler les deux premiers de manière beaucoup plus plastique et contrôlable, parce que je crois qu'il y a trois moteurs différents déjà. Il y a noise, il y a différentes formes d'ondes qui sont recréées numériquement, mais il y a aussi carrément toute une banque d'utilisateurs sur laquelle tu peux mettre tes propres formes d'ondes que tu télécharges depuis ton ordinateur. Donc ça, c'est quelque chose qui t'offre une infinité de sons différents, quoi.
C'est ça qui est hyper intéressant avec le Minilog XD, c'est que même Korg avait ouvert cet oscillateur là au créateur d'ondes. Donc en fait, il y a une banque infinie d'ondes d'oscillation et on peut créer des synthés à l'infini.
Bah, c'est trop bien. T'aurais un petit preset à nous faire écouter ? Ah, ça c'est le noise, ça.
Ça c'est le noise.
Un beau bruit blanc.
Une impression fin du monde, c'est ouf.
Ça, c'est un paquebot.
C'est le bateau,
de,
oui.
Bordeaux.
Oui.
Je vais l'ajouter aux deux autres oscillateurs qu'on avait fait tout à l'heure. Quoi.
Du coup, c'est pas juste du bruit. Tu peux jouer des notes à chaque fois avec ce son-là.
Exactement.
C'est super puissant quand même.
Parce qu'en fait, ce qui se passe sur un synthétiseur, c'est que quand tu appuies sur une touche, ça va déclencher l'oscillateur. Mais après, tu peux aussi gérer la manière dont l'oscillateur se déclenche selon l'enveloppe, en fait. Qui est donc selon l'enveloppe ADSR, si je ne me trompe pas.
Non, tu te trompes.
Ok, exactement. Parfait. Et ça va déterminer le temps que met l'oscillateur à se lancer quand tu appuies sur la touche, le temps qui reste activé, le temps que tu appuies sur la touche, et le temps qu'il met à s'arrêter une fois que tu lâches la touche. Donc déjà, tu peux shaper la forme du son rien qu'avec ça déjà, quoi.
Là, on va travailler l'attaque, par exemple. On voit qu'il met un peu de temps à arriver. Si je la raccourcis, c'est en direct. Si je l'allonge, voilà. Et après, on va avoir la release qui est le temps de relâchement. Si je la mets à zéro, dès que j'arrête d'appuyer sur le... Je vais couper le délai pour que vous entendiez. Si je la mets à zéro, dès que je lâche la note, on l'entend plus. Et par contre, si je l'allonge, quand je lâche la note, ça reste et ça décline très progressivement.
Ah, tu l'as mis à fond, là.
Là, je l'ai mis à fond.
Mais c'est quelque chose que vous voyez pas, mais à chaque fois... En fait, du coup, il appuie sur la note, mais il relâche juste après, le son reste, mais il appuie pas sur le clavier en même temps.
Et après, on a le decay et le sustain. Donc le sustain, c'est la hauteur de volume de quand on reste appuyé sur la note. Là, elle est à fond. Si je le baisse, alors pas à fond parce que sinon elle sera à zéro, mais
là tu restes là, appuyé.
On...
Mais
je c'est... reste appuyé, ouais. On voit qu'elle est très petite. Si je la mets au milieu, voilà. Et on a un temps pour arriver à ce niveau de volume du sustain qui est géré par le decay. Qui est, en fait, on va avoir l'attaque, donc c'est quand on commence à appuyer. Le release, c'est quand on relâche. Là, c'est le temps que ça va mettre à revenir au sustain. C'est pas très clair. Hein,
si,
mais,
si, je trouve ça assez clair, ouais, ouais.
Et on a avec, du coup un temps de decay qui peut être plus ou moins long. Là, je l'allonge. Là, ça décroît jusqu'à être à un niveau qui reste le même. Puis après, on va arriver sur la release que là, j'ai mis au minimum. Donc, ça va se couper direct dès que je relâche la note. Attention, attention, top.
Waouh.
Et après, le decay, on peut le faire plus ou moins long. Okay. Court.
Voilà. Est-ce que tu utilises les presets utilisateurs ou est-ce que tu as créé quand même tes propres presets là-dessus ?
J'en ai créé quelques-uns. Après, j'utilise beaucoup les presets utilisateurs quand même, que je modifie moi en fonction du morceau pour que ça colle plus à ce que je veux exactement.
Ok, et c'est aussi un séquenceur. Tu peux aussi jouer une séquence et l'enregistrer, puis le clavier va la rejouer tout seul. Je sais pas il y a combien de pas, mais c'est quand même relativement long, il me semble.
Alors, il n'y en a que 16 sur
celui-là. Ah, ok. Donc, c'est une seule mesure. C'est
assez court, ouais.
Ok, d'accord.
Ouais, carrément.
Donc, tu utilises aussi le séquenceur ou tu préfères séquencer après via Ableton ?
Alors, pour les notes, je préfère séquencer sur Ableton. Par contre, ce qui est intéressant sur le Minigog XD, c'est que tu peux séquencer chaque paramètre. Donc, à chaque pas, tu peux, par exemple, changer de forme d'onde ou changer de valeur de filtre ou de n'importe quel bouton. Et il y en a beaucoup quand même dessus. Tu peux le régler pas par pas. Donc, ça peut donner des séquences assez intéressantes.
Est-ce que tu peux nous faire écouter le preset qu'on a utilisé pour faire la track du jour ?
Avec plaisir.
Super. Donc, c'est, comme j'ai dit, c'est une chanson qu'on a composée du coup, chez Tom avec ses instruments. C'est presque full analogique. Je crois qu'on a modifié quelques sons après sur Ableton. Mais il y avait le Korg Minilog XD, le Mininova, Ultranova ?
Le Novation Ultranova.
Ultranova, c'est ça. Et une boîte à rythme TR6. T'as trouvé le preset ?
Ouais.
Ah yes. Ça c'est beau.
Comment partir loin ?
Ouais, grave. Tu te rappelles de la séquence de notes ? Oh, c'est beau. Bah écoute, je pense qu'on va pouvoir directement écouter cette chanson du jour. Donc, qui a été composée en 3 heures spécialement pour cette émission. Normalement, on était censé la passer en fin d'émission, mais comme Arthur est là et qu'il est chaud à poser de la gratte dessus, vous aurez droit de l'entendre deux fois. Une fois complètement vanille et l'autre fois avec de la guitare dessus. Allez, c'est parti, on va écouter ça. Thank you. Vous êtes toujours sur Radio Campus Bordeaux, dans la cabine, vous venez d'écouter une composition faite par moi-même et Placide, ou Tom's Explorer, on sait pas, peut-être plutôt Tom's Explorer d'ailleurs sur celle-là. Hein.
Oui, plutôt Tom's Explorer sur celle-là.
Et on va passer à la chronique du jour. La chronique d'aujourd'hui, c'est une histoire de découvertes accidentelles, de transformations, de contre-cultures, de drogues, de polémiques, de marchandisage, mais surtout une histoire de vaisseaux qui vont vite sur la musique qui tape fort, c'est l'histoire de Wipeout. Avant d'en arriver à ce remix de Prodigy qui réussit l'exploit de taper presque plus fort que l'original et qui figure dans le dernier Wipeout en date sorti en 2012, il y a quand même du chemin à parcourir parce que quand même, au début, on part de ça. Ce petit régal pour les amateurs de jeux rétro vient du titre Matrix Marauders, sorti sur Amiga en l'an de grâce 1990. Ce jeu de course couplé à un shoot 'em up additionné au circuit du jeu Power Drome sorti sur Atari en 88 pose les bases visuelles pour Wipeout. Mais il manque encore l'élément principal démarquant vraiment la série de ses prédécesseurs, la petite touche qui va marquer un tournant dans l'histoire vidéoludique, la musique. Un soir, un homme nommé Nick Burkamby, fan de jeux de course et travaillant dans le secteur encore frais et changeant qu'est le jeu vidéo, est comme beaucoup de personnes à l'époque affalé dans son canapé en train de saigner Mario Kart. Mais voilà, il progresse pas vraiment dans le jeu parce qu'il a du mal à se concentrer sur les derniers tours quand la musique elle fait ce genre de bail obscur qu'on est en train d'entendre là. C'est alors que lui vient l'idée qui va tout changer. Il coupe la musique du jeu et il cale sa playlist de dance techno du milieu rêve dont il est friand, ça devait donner à peu près ça à l'époque. D'après ses mots, il entre alors en transe et tout s'aligne. Il platine le jeu en 150cc dans la nuit. Quelques soirs plus tard, complètement bourré au pub, il fait part de cette expérience à son pote Jimmy Bowers. Jimmy, tout aussi bourré que Nick, sort alors de sa poche des dessins des vaisseaux qu'il a réalisés pour Matrix Marauders. Et en guise de BO, ils imaginent un genre de remix par Prodigy d'une chanson de surf rock. Alors plus précisément, ils imaginent Liam Howlett, le chanteur de Prodigy, refaire dans son style bien particulier cette intro-là. Voilà, sauf qu'au lieu du surf rock, ben, ils imaginent plutôt un gros drop de hardcore à 140 bpm. Bien sûr, comme vous avez peut-être entendu, cette chanson s'appelle Wipeout. Et après quelques « Oh putain frérot, je crois qu'on tient un truc de ouf là !» Le concept, il est enfin posé. On est alors en 94, c'est les prémices de la dinguerie que va devenir Internet, et la contre-culture rave essaye de rester discrète, mais elle fait quand même beaucoup de bruit. Sony, qui flaire là-dedans que les jeux vidéo, c'est plus vraiment un truc de gosse, rachète le studio de Nick et Jimmy, qui s'appelle Psygnosis, et il rachète avant même de sortir la PS1. Psygnosis n'est pas dupe et décide de jouer la carte de l'antisystème à fond, en employant pour leur promotion le studio de design The Designers Republic, qui détournent les codes du consumérisme avec leur style coloré, minimal et post-moderne, n'hésitant pas à utiliser l'esthétique des animés japonais et même des kanji. Alors oui, maintenant, tout le monde fait ça, jusque H&M et Ikea, mais à l'époque, c'était novateur de ouf. Regardez la pochette du premier Wipeout, ça choquerait personne que ce soit celle d'un album de Vaporwave ou de n'importe quelle autre chanson sortie cette année. Toujours en 94, Psygnosis sort une première démo de leur jeu sur le titre One Love de, sans grande surprise, Prodigy. Les studios de cinéma qui bossent alors sur le film Hackers se disent que cette démo représente tout ce sur quoi ils essayent de faire de la moula, la contre-culture et Internet, et ils décident donc d'incorporer cette démo dans leur film. Avant même la sortie du jeu, on peut donc déjà voir Angelina Jolie et Johnny Lee Miller s'y affronter. Malheureusement, n'ayant pas le flair de Sony, Prodigy refuse de signer pour apparaître dans la BO du jeu. Pas de problème, Burkamby fait sa petite liste de shopping de raver et va voir d'autres membres de la scène rave comme Cold Storage, Orbital ou encore les Chemical Brothers. Tout est en place, il ne manque plus qu'une dernière pièce au Pulse pour en faire une super production des temps modernes, une polémique, un bad buzz. Et c'est chose faite avec le poster de promo de Designers Republic, montrant deux personnes dans un canapé, le regard flou, au t-shirt déchiré, imprégné de sang qui leur coule du nez. Associé au fait que Psygnosis fait la tournée des clubs pour leurs promos, sentant que ces lieux sont idéaux pour faire changer le public cible des jeux vidéo, il n'en faut pas plus pour que les médias et les politiques les accusent de faire la promotion de la drogue. Il désigne notamment le style d'écriture utilisé pour le titre Wipeout, car le E au milieu du mot est en majuscule, ce qui selon eux fait référence à l'ecstasy. Interrogé sur ce sujet, Burkambi déclare que ça n'a rien à voir d'abord, c'est juste au fait qu'un E minuscule ne pouvait pas rentrer dans ce style de police. Et pour sa défense, ce E majuscule n'est rien d'autre que le W de Wipeout renversé, pourquoi pas. Cependant, le directeur de Psygnosis, Neil Thompson, répondra avec le sourire que c'était absolument intentionnel. De même, un membre de l'équipe de Designers Republic, interrogé sur le message qu'il voulait faire passer avec ce poster, répondra en anglais « Speed, however you want to interpret it », jouant sur le double sens entre la vitesse et les fameuses amphétamines qui se prennent par le nez. La machine est lancée, le but à demi avoué de faire acheter des PlayStation aux rêveurs pour qu'ils aient quelque chose à faire pendant leur redescente de drogue est atteint. Wipeout se vend à des millions d'exemplaires et donnera lieu à une dizaine de suites où Prodigy apparaîtra enfin, aux côtés d'autres gros noms de la scène rave comme Paul Van Dyke ou encore mes petits chouchous, Propellerheads. Mais 20 ans plus tard, la série s'essouffle, menant à la fermeture de Psygnosis. Entre-temps, ces studios avaient bien sûr fait d'autres jeux, mais Wipeout restait dans leur ADN de base, si bien qu'une blague récurrente entre eux était « Si on nous enferme suffisamment longtemps dans un studio, on va faire un nouveau Wipeout sans faire exprès ». Parce que le succès de leur entreprise est aussi lié au fait que cette équipe se connaissait très bien, s'amusait énormément ensemble à créer et tester des jeux, et cette complicité s'est créée autour de la licence phare. Mais alors, pourquoi cet essoufflement ? Il faut regarder au-delà du jeu vidéo pour comprendre ça. Quand la culture évolue, la contre-culture ne peut faire que suivre, mais l'inverse est également vrai. La soi-disant contre-culture pave la voie pour la culture à venir, et le fait d'utiliser des chansons de groupes connus sous licence, chose que Wipeout a initié, deviendra vite la norme dans les jeux de course, et même les jeux en général. Perdant ce qui fait son originalité, Wipeout ne devient plus qu'un jeu de course futuriste, plus ou moins hardcore à jouer selon les opus, et finira par lasser son public. De plus, le pseudo-affrontement dichotomique culture contre culture commence à se brouiller, et je crois que plus personne ne s'y trompe, tout ce qui est underground se fait vite phagocyter par le capitalisme. Y'a qu'à regarder comment on est passé des Clash aux Sex Pistols, ou encore la liste des clients des prétendus fer de lance de l'antisystème Designers Republic eux-mêmes. Certes, on y trouve Nine Inch Nails ou encore Aphex Twin, mais y'a aussi MTV, Adidas et même Coca-Cola. Donc s'il fallait faire une grosse digression pour conclure cette chronique et trouver un moment où ce type de contre-culture, qui est toujours très lié avec son époque, s'est enfin fondu avec ce qu'elle pointait du doigt, je pense qu'on peut le trouver entre et même un peu dans les lignes de cette chronique. Parce que si je vous dis Propellerheads, Prodigy, une saga inutilement longue qui s'essouffle, des hackers qui se rencontrent dans des clubs et qui gobent des pilules, ça vous rappelle pas un film dont on a même entendu le nom dans la chronique ? Je veux parler de Matrix, bien sûr. Alors, le débat est ouvert, mais en fait, non, le débat il est pas ouvert parce que c'est pas le thème du tout ici, et on va même passer directement à la suite. Eh oui.
Oh.
Eh bien, on va passer à l'interview, Tom. Mais avant, je pense qu'on va écouter une de tes chansons. Plutôt celle de Placide, plutôt celle de Tom, je te laisse choisir.
Vas-y, on voit celle de Placide.
Donc c'est parti sur une chanson qui a le même titre qu'une track de Gorillaz, Rock the House, qui est très très bien, de Placide. C'était Rock the House par Placide, l'invité de cette émission La Cabine, que nous allons maintenant interviewer. Toujours ces petits jingles agrémentés par Arthur le guitariste qui régale, on va partir sur l'interview de Tom. Alors Tom, déjà, faut savoir qu'il y a 2 ans, tu étais déjà invité dans une précédente émission nommée Le Cube, durant laquelle nous avons découvert ce qui t'a poussé à te mettre à l'électro. Si ça vous intéresse, vous les auditeurs, l'émission est toujours disponible sur le SoundCloud de Radio Campus dans la playlist Cube. Mais j'aimerais profiter de cette deuxième interview pour me pencher un peu plus sur l'éventail proposé par ta musique. Parce que tu possèdes 2 alias, Placide, qui sont secret tape dans la techno-acide, et Tom the Explorer, plus doux et plus mélodieux. Et je voulais savoir en fait d'où vient cette distinction. Alors, est-ce que tu ressens le besoin de compartimenter ta musique selon le style pour être plus accessible à ton public, ou c'est même juste pour y voir plus clair toi-même ?
Ça m'aide moi aussi, même dans la prod finalement. Avant je produisais plutôt le style de Tom the Explorer, mais je mixais plutôt le style de Placide. Et à un moment j'ai eu envie de produire ce que je jouais en club. Mais à ce moment-là, j'avais aussi envie de faire de la musique chill et qui s'écoute en journée et que tu peux écouter au bord d'une plage, au sommet d'une montagne, que tu peux écouter tranquille, en te réveillant. Ce qui n'est pas le cas de la musique de Placide.
Il y a d'autres occasions pour écouter Placide qui sont quand même pas mal. Tu disais qu'il y avait une différence dans ton approche créative du coup pour composer chaque style. Tu peux éclaircir un peu ça ?
Placide, c'est un style beaucoup plus brut, qui va plus s'adapter au club. C'est un style beaucoup plus aussi assez plus dur finalement, même si la musique qu'on a écoutée est assez groovy et que en ce moment j'aime bien cette vibe de hard groove justement, qui est un mouvement qui revient en force. Mais avec Tom the Explorer, on peut plus facilement rajouter des instruments, par exemple une guitare, par exemple, quand c'est Arthur qui joue. Et on peut, ça se rapproche plus de la musique instrumentale finalement, et c'est un projet qui pourrait presque se jouer en concert avec un groupe, des percus, une guitare, des trompettes, pourquoi pas.
Et quand tu composes des tracks, finalement, est-ce que tu as besoin d'un, peut-être d'un mindset particulier pour pouvoir faire quelque chose qui tape un peu plus comme Placide? Et après, quand tu veux être en mode plus chill, tu vas faire du Tom's Explorer? Ou est-ce que ça peut être l'inverse, tu vois? Est-ce qu'il faut être chill, finalement, pour composer du Placide?
Quand je commence une track, généralement, j'ai une intention derrière et je me mets directement plutôt dans un mood ou dans l'autre. En fait, Tom's Explorer, c'est plutôt apparu parce que entre mes tracks de Placide, j'avais vraiment besoin, moi aussi, de faire des tracks plus chill et j'aime bien aussi jouer des trucs plus mélodiques, plus doux. Et en fait, au fur et à mesure, je commençais à avoir pas mal de morceaux et je me suis dit que j'avais envie de lancer un nouveau projet, justement, Tom's Explorer. Plus chill, qui me permet aussi, quand je mixe, de jouer du hip-hop à la house facilement, en passant par plein d'influences du monde et tout ça.
Stylé. Tu fais aussi partie d'un collectif qui s'appelle Telluric, aux côtés d'autres DJ. Comment est-ce que ça a influencé ton parcours, finalement, et quel rôle est-ce que tu as au sein de ce collectif?
Alors, Telluric, c'est un collectif de DJ et de producteurs, enfin, surtout de DJ producteurs. Tous sont producteurs. On l'a lancé officiellement en juin cette année. Ça permet d'avancer ensemble, en fait. On se complète entre nous. Dans le collectif, on a quelqu'un qui a fait des études d'architecture, qui s'occupe plutôt de la scéno. On a deux gros producteurs qui sont Danite, qui s'occupe aussi de la com. Et on a Loris, alias Laimi, qui est un peu notre homme à tout faire et qui est dispo tout le temps et qui est toujours prêt pour filer un coup de main. Et en fait, de marcher en collectif, ça nous permet d'avancer tous ensemble et aussi de sortir de ce cadre de la musique électronique où tu es beaucoup tout seul dans ton studio. Et en fait, on ne peut pas avancer tout seul. On a toujours besoin d'une équipe, même dans la musique techno et même dans l'électronique.
Toujours être bien entouré, effectivement. Et en parlant d'être bien entouré, les concerts, c'est rien sans public, finalement. Et comment est-ce que tu perçois l'interaction entre ta musique et ton public pendant les perfs? Est-ce que tu as noté des différences entre le public de Placide et celui de Tom, par exemple?
Oui, totalement. Déjà, mes potes viennent que à Tom's Explorer. Non, je rigole. Heureusement, pas tous. Mais mes potes veulent que je fasse plus de Tom's Explorer. Et puis, moi, je me bats pour faire du Placide. Non, l'ambiance est différente. En fait, Tom's Explorer, je vais plutôt jouer sur des horaires de journée, déjà. Et dans des cadres plus posés, où tu peux être dans une chaise longue, tu peux être allongé. Placide, c'est vraiment un projet tourné vers le club, qui s'adresse aux gens qui aiment bien ce genre de musique.
Et t'as pas de potes qui vont en club, en fait, du coup, c'est ça le problème.
Tu sais, quand tu dépasses la trentaine...
Attends, mais t'es vieux.
T'as moins de potes qui vont en club. On a le même âge.
Mais vous êtes vieux.
Oui.
Mais à la fois...
Mais moi, je vais le voir en club.
Eh oui. Bientôt. Heureusement, il y en a quelques-uns, quand même. Mais à la fois, Placide, c'est le projet avec lequel je me sens le plus proche du public parce que c'est vraiment un projet où les gens viennent danser et où j'ai une interaction avec eux et je ressens beaucoup plus de connexion avec eux. Et moi, c'est aussi pour ça que c'est mon projet principal et que je préfère en ce moment faire celui-là et que je pousse plus celui-là. Quand tu arrives et que tu mixes, déjà, je sais jamais ce que je vais jouer, ça dépend un peu du public. Et t'es obligé de les sonder, de regarder, tu fais beaucoup d'échanges de regards avec des gens, tu checks si ça danse, telle musique, ah tiens, elle marche bien, lui, il est chaud pour ça. voilà, et en fait, c'est toujours un va-et-vient comme ça. Même si c'est pas une boîte commerciale où je vais aller jouer, où tu regardes s'ils veulent du Joule ou des Rolling Stones. Là, c'est dans mon style, mais certains vont avoir des préférences. Et des fois, tu sais qu'il faut plutôt calmer le jeu. Des fois, ils veulent plus que tu les enchaînes, finalement. Et j'aime bien aussi rythmer mes sets à des moments importants, par exemple en cassant le rythme de la techno, en mettant du break ou de la jungle. L'avantage, c'est que la techno s'est vachement accélérée les derniers temps et du coup, tu peux te permettre de jouer des styles comme ça sans que ça casse ton set. Mmh. Et ça permet vachement de relancer la soirée. Mais j'aime bien aussi, des fois, casser le truc. Ça va être 2-3 musiques dans ton set, sur un set de 2 heures, mais à des moments clés qui vont permettre de relancer totalement le set.
C'est vrai que c'est un truc que je remarque aussi en ce moment, que les scènes sortent un peu de leur carcan habituel et n'hésitent moins à mélanger. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant et assez cool à entendre. Pour conclure, est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de ce que l'avenir réserve à tes deux alias musicaux ?
J'ai plein de sorties prévues avec Placide jusqu'en mars pour l'instant, presque tous les mois. La musique qu'on a écoutée ensemble sortira le 17 novembre. Et à partir de celle-là, il y en aura une tous les mois jusqu'à fin février pour l'instant. Bien sûr, j'en produis d'autres en ce moment, donc ça devrait continuer. Avec Tom the Explorer, j'ai 3 musiques aussi qui vont sortir, dont une qu'on écoutera dans l'émission, et 2 autres qui n'ont pas encore de date de sortie, mais elles sont déjà avec un label. Et il y a plein d'autres projets en même temps, et plein d'autres tracks qui devraient sortir, et puis des dates. Avec Tom the Explorer, j'en ai 4 ou 5 à Bordeaux ce mois-ci, et puis avec Placide, environ toutes les 2 semaines ici, et puis bientôt dans d'autres villes, comme cet été d'ailleurs. Et voilà, le plus simple pour être au courant de tout, c'est de suivre sur Instagram.
Yes, Placide, Tom the Explorer, sur tous les réseaux sociaux. Et maintenant, pour donner un petit aperçu du coup de ce dont on parle depuis tout à l'heure, on va pouvoir mettre une chanson de Tom the Explorer qui s'appelle Tour du Monde.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Bordeaux dans l'émission La Cabine. Vous venez d'écouter une track par Tom the Explorer qui s'appelle Tour du Monde. Et Tom est avec moi présent dans la cabine, c'est l'invité. Et on va maintenant décomposer pour vous la chanson que vous avez entendue en début d'émission, que nous allons réécouter en fin d'émission. On va voir un petit peu comment on a créé ça. Je crois qu'on a commencé par la percu, il me semble. On était assez classique, on s'est pas trop emmerdé.
Ouais.
On est commencé par la percu. La percu.
On a fixé un BPM, donc un rythme.
Ouais. On avait fixé un truc à 90 pour être assez chill, pour donner un peu de place, mais parce qu'on voulait être tranquille. Je crois que la percu en entier, je l'ai là. Là, il y a toute la percu là. Je crois qu'on a changé le kick. Il me semble que c'était pas le kick de la TR. Que t'as mis un autre kick après.
Oui, c'est vrai.
Mais tout le reste, par contre, c'est la TR. Donc, du classique. Hein. Ça, c'est toute la track. Une fois qu'on avait cette base-là, on a ajouté les trames. Donc, pour ça, on avait le mini-log qu'on avait eu, qu'on nous a fait écouter en début d'émission, avec ce patch-là.
Avec beaucoup de delay et de reverb, comme on a vu tout à l'heure.
Moi, je trouvais ça assez inspirant, j'étais assez content de le garder pendant quasiment toute la track, je trouvais qu'il avait sa place. Il est assez cristallin et on n'a pas eu beaucoup à le modifier, on a enlevé des basses et c'est quasiment tout ce qu'on a fait.
On n'a pas beaucoup retouché, ouais. C'est vrai.
On a ajouté un peu de glitch de délai, une petite reverb en plus de celle du mini-log et puis c'était plié quoi, donc ça c'est pas mal. Après on a ajouté l'Ultra Nova qui lui... Et comme ceci. On entend bien la compression.
Oui, on a mis une grosse compression avec un sidechain. Donc, le sidechain, c'est un truc qui va permettre de déclencher la compression par un élément externe.
Qui là est le kick.
Ça fait un effet de pompage en fait. Il va beaucoup moins s'entendre si on met le kick plus le synthé.
Là, il y est pas là. Et là, on entend le pompage. Et une fois qu'on avait tout ça, bah, on n'avait plus qu'à ajouter une petite basse en fait. Hein, et puis le tour était joué pour la boucle principale. La basse, c'est celle-ci. Qu'on a aussi fait avec le mini-log. Il me semble.
Oui, je pense.
Ouais, c'était un autre preset du mini-log en mode basse. Où là, on n'a pas eu grand chose à faire. Pareil, hein, je regarde l'égalisateur qu'on a mis, mais on n'a pas fait grand chose. On a récupéré quelques petites. Ça, c'est un effet de filtre. On a récupéré quelques petites fréquences. On a un peu creusé au milieu pour faire de la place pour l'Ultra Nova, je pense.
Oui.
Et après, une fois qu'il y avait la compression, le kick, on était bon quoi. Et une fois qu'on a additionné tout ça, on se retrouve avec les synthés en plus, quoi. En gros, voilà. Là, on a presque tout. Donc ça, on avait au départ, on avait juste ça, quoi. On avait cette boucle, quoi, en gros. Et après, il a fallu faire la structure de la chanson à partir de cette boucle. Donc pour faire ça, il y a plusieurs méthodes. C'est souvent le problème qu'on a, quoi. On arrive avec cette boucle-là et c'est compliqué de savoir comment faire, quoi. Donc il y a les astuces qui sont relativement classiques, qui vont être de mettre des gros filtres partout, évidemment. Notamment sur le kick, là, on entend bien au début.
Et oui, le filtre, il va te permettre de faire un peu vivre tes synthés tout le long du morceau.
C'est ça.
La base, c'est d'avoir une bonne boucle, mais...
Oui. Donc pour l'intro, on a choisi de commencer avec juste le kick filtré et la trame. Il n'y a que deux pistes. Après, on peut faire rentrer progressivement le reste des percussions. Je crois que c'est ce qui va se passer bientôt là. Et après, c'est vraiment juste un jeu de remettre des segments, enlever d'autres segments, trouver les moments où ça passe bien. On peut éventuellement essayer de compter en 16 et en 32 pour faire sur un certain nombre de mesures, un certain nombre de temps, mais en général ça se fait quand même de manière assez naturelle. Ça c'est un premier drop où bah, on a quasiment enlevé toute la batterie, il reste que le kick pour remettre la trame et tout. Donc tout le but du jeu en fait ça va être de trouver le moment où mettre sa boucle en entier. Et je crois que dans ce qu'on a fait nous, il y a aucun moment où il y a toute la boucle, tu vois.
Oui, c'est possible.
Il y a
carrément.
Il y a ce moment-là où il y a presque tout.
Ouais.
Mais il y a pas tout, il manque les cymbales, je crois. Les cymbales qui arrivent plus tard par là. Voilà, ces cymbales, elles sont là. Et là on a les cymbales, mais on a plus la trame.
Et oui.
Et après quand la trame revient, pareil, on a plus les cymbales quoi. Donc au final, on n'a pas du tout notre boucle de départ, on ne l'entend pas du tout dans la chanson. C'est un truc que je trouve assez intéressant en fait, quoi. Ça permet de faire respirer vraiment la track, parce que le but c'était quand même d'avoir quelque chose qui soit ouvert pour le faire tourner au maximum de musiciens, de chanteurs, de rappeurs, pour qu'ils puissent se faire plaisir dessus, comme par exemple ce que va nous montrer Arthur très bientôt.
Oui, c'était un bon exercice d'arriver avec l'intention de laisser de la place à des instruments dans le futur, sans avoir la personne avec nous.
Ouais, ça c'est ce qu'on va faire après tout au long de cette émission. On va faire ça à peu près 5 fois de suite pour faire 5 chansons différentes et voir ce que les gens en font. Et là, on va voir ce que Arthur va faire avec cette chanson qu'on va placer en entier maintenant. C'est bon, t'es chaud ? Allez, c'est parti.
C'est sa façon de dire bonjour. Thank you.
Waouh. Incroyable. Merci beaucoup.
Merci
la
à vous. Classe.
Merci pour l'invitation.
Ouais, pas de souci. Tu t'es du coup, t'as écouté un petit peu la track pour t'entraîner, avant, pour savoir ce qui allait coller, etc.
Ouais, tout à fait. Ouais. Pour reprendre ce que vous disiez, les petits effets du synthé avec cette reverb, ce delay, et tous ces effets-là m'ont pas mal transporté. Ça m'a inspiré, donc chercher la grille un peu, trouver quelques couleurs et essayer de les poser dessus.
Quand tu parles de la grille, tu parles de la grille des accords.
Tout à fait, ouais, je parle de la grille des accords. Et je pensais à ça tout le long où j'écoutais votre processus créatif, parce que c'est intéressant de voir plusieurs points de vue, le point de vue des musiciens, le point de vue des gens qui tripotent mais qui vont utiliser leur intuition ou leur oreille.
Ça, c'est moi.
Ouais, mais c'est beaucoup de gens. Et pour les musiciens, souvent, ça l'a été même avant de devenir des musiciens. Bien on sûr. Passe par là, donc c'est intéressant de voir les procédés, quoi.
Je pense que c'est un petit peu le but caché de cette émission, c'est de me faire apprendre la grille des accords, parce que je pourrais même pas te dire ce qu'on a utilisé comme accord dans cette chanson, quoi. Okay, tu vois. Tu peux, vas-y. Bah,
moi, je peux te dire, mais j'ai même un doute. Le premier accord est un Fa majeur 7. Le deuxième accord, j'entends un Ré mineur 7. Et pour le troisième, je suis pas sûr entre un Do majeur 7 ou un La mineur.
Joulez, par cousin. Pitié, joulez.
Donc, premier accord de Fa majeur.
Ouais. Oh.
Deuxième accord, Ré mineur, ou Ré mineur 7. Et le troisième accord, ça pourrait être soit un Do majeur, soit un La mineur. Mais je dois dire que la ligne de basse me met le doute.
Ouais,
ouais, mais ça, c'est parce que c'est moi qui l'ai joué.
Non, mais c'est cool. C'est intéressant. Parce que je me situe un peu entre les deux, c'est complémentaire, il faut essayer de trouver des passerelles.
Ouais, moi, tu sais, tant que ça fait pas vibrer le son, que ça fait pas un truc dégueulasse, je me dis que... Bon,
ah non, ça passe très bien.
À peu près ça.
Tu sais, moi, j'ai même discuté avec des mecs qui, quand les notes tombaient juste en électronique, étaient pas contents, quoi.
Ah donc, oui, y a pas de, en soi, il n'y a pas de règle. Hein,
c'est un monde où tu peux faire ce que tu veux, et c'est des mecs qui tournait pas mal en plus.
Ouais, faut mettre des blues notes, oui, c'est vrai. Après, il y a des gens qui jouent avec justement le déphasage, le fait que des fois les sons sont pas tout à fait ensemble. J'avais fait une chanson aussi où, genre, par accident, j'avais mis deux fois la snare, j'ai mis deux fois la caisse claire, et du coup, vu qu'elle était pas exactement au même moment tout le temps, ça faisait des effets un peu spéciaux, mais c'est quelque chose que tu peux utiliser, quoi.
Mais t'as plein d'effets comme ça qui existent et qui ont été trouvés avec des erreurs, genre le son des années 80.
C'est que ça.
La reverb gaieté, le tchouch, qui s'arrête comme ça, c'est juste à la base parce que l'ingé son qui mettait de la reverb, à un moment, ça a repissé dans le micro. Et les artistes ont adoré, pareil, le vocodeur, c'est des tests, c'est des erreurs, tout dans la musique française. Ouais. Ça, c'est trop bien, moi j'adore.
Moi, c'est souvent ça, j'ai remarqué aussi que quand je faisais des petites erreurs sur les instrus, t'essayes de les garder, t'essayes d'enregistrer, de voir ce que tu peux en faire. C'est ça qui est assez intéressant et je pense que c'est aussi ça qui, moi, personnellement, m'a fait acheter pas mal de matos différents. C'est-à-dire le temps que j'apprenne à les utiliser, je vais faire plein d'erreurs et ça va être un peu marrant, quoi.
Quand c'est pas juste une excuse pour avoir le plus de matos possible.
Non, c'est pas vrai.
Ça rend la chose ludique.
C'est complètement faux. J'ai pas encore Kylie Minogue, par contre. Hein.
Ah non, mais il est unique, celui-là.
Je m'achète pas trop de synthé non plus. C'est un peu le problème, quoi. Je sais qu'avec des claviers maîtres, tu peux déjà tellement contrôler ton ordi et tellement faire de choses différentes, quoi, que finalement... Mais c'est vrai que de toucher le synthétiseur, de savoir comment ça marche, de voir l'oscillation, de voir l'enveloppe sur la plupart des synthétiseurs, déjà, ça aide vraiment beaucoup à comprendre ce que tu fais. Et si jamais cette émission vous donne un petit peu envie de composer de la musique, ce serait vraiment trop cool. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu du côté de petits synthétiseurs vraiment très simples, avec pas beaucoup d'oscillos. Il y a des choses très intéressantes. Il y a même souvent des patchs qui sont gratuits sur Internet. Il y a des émulations de synthé qui sont très cool. Il y a par exemple VC Verac, qui est un synthétiseur modulaire complètement gratuit, complètement libre, qui va émuler la plupart des modules de synthé. Donc je vais pas m'apesantir sur ce qu'est un synthétiseur modulaire maintenant parce que
c'est long.
Parce qu'on a plus qu'une minute d'émission.
Il faudrait trois émissions.
Ouais, voilà, c'est ça, quoi.
Et ouais, c'est ne serait-ce que VC Verac, c'est un super moyen de se rendre compte de comment fonctionne un synthétiseur.
Ouais, carrément. Et tu peux vraiment voir la complexité dans les branchements, dans les modulations et tout. Mais il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Vous prenez un petit Moog Verstad 01 là, qui coûte 200 balles.
Je pense que c'est bien de commencer simple au final.
Ouais, grave.
Ça peut très vite te dégoûter, sinon tu te retrouves face à un truc qui est quasiment incompréhensible. Si tu n'es pas accompagné, en fait.
Oui, c'est ça. Tu ne comprendras rien à ce que tu fais. Et du coup, des fois, ça peut être frustrant finalement.
Oui, ouais, bah, j'ai vu pas mal de gens quand ils chopent des modulaires, ils disent au départ, tu tombes dans un énorme trou et pendant 6 mois tu fais des trucs qui sont juste pas écoutables quoi. C'est des bips, des bruits, des nappes de son, du drone avec des bruits de recherche. Ouais, c'est ça, mais le temps de comprendre comment ça marche, c'est compliqué.
Mais ça, c'est si tu t'accroches, si t'as la thune, parce que c'est un truc qui est cher aussi, la synthèse modulaire.
Si tu construis tout, oui, après tu peux déjà t'amuser avec VC Verac à brancher des faux fils, quoi, tu vois, et ça, c'est assez cool. Eh bien, écoutez, l'émission arrive à sa fin. C'était vraiment très intéressant de faire tout ça avec vous. J'espère qu'on va pouvoir continuer longtemps. J'espère qu'Arthur, on te reverra dans l'émission.
Volontiers. Je te fais quelques jingles avec plaisir.
Vas-y, trop, trop cool. Nils, merci pour la technique.
C'était un plaisir.
Très, très propre. J'espère aussi que je te reverrai.
Oui, ça oui. Super. En technique aussi, peut-être.
Oui, les deux. J'y crois. Et Tom, c'était encore une fois excellent et je sais que je te reverrai en club et un peu partout de toute façon.
Donc, merci beaucoup pour l'invitation, c'était trop cool.
Merci à vous, merci aux éditeurs, merci à tout le monde et puis bonne nuit, à bientôt.
Ciao.